Quatrième partie. Melon et empreinte de pas. 18, 20 juillet. 1. Ralph n'ayant pas fait part à Jenny de ses plus noirs soupçons concernant le procureur de Flint County, qu'il avait peut-être appelé de ses vœux ce rassemblement de citoyens furieux devant le tribunal, elle laissa entrer Bill Samuels lorsque celui-ci sonna chez eux le mercredi soir. Mais elle lui fit clairement comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. « Ralph est dans le jardin, » dit-elle. Puis elle tourna les talons pour retourner dans le salon où s'affrontaient les candidats de Jeopardy. « Vous connaissez le chemin ?» Samuels, vêtu d'un jean et d'un t-shirt gris tout simple, chaussé de baskets, demeura un instant dans le vestibule, songeur, avant de la suivre. Deux fauteuils faisaient face au téléviseur. Le plus gros, le plus avachi aussi, était inoccupé. Il prit la télécommande posée sur la table basse au milieu et coupa le son. Jenny garda les yeux fixés sur la télé, alors que les candidats devaient répondre aux questions de la catégorie « Les méchants dans la littérature ». Un indice s'affichait sur l'écran. Elle réclama la tête d'Alice.
« Facile, » dit Samuels. « La reine de cœur. Comment va-t-il, Jenny ?»«
À votre avis ?»«
Je regrette que les choses aient tourné de cette façon. »
Notre fils a appris que son père avait été suspendu,
dit Jenny, sans quitter la télé des yeux.
Sur Internet. Il est bouleversé, évidemment. Mais il est bouleversé aussi parce que son coach préféré a été abattu devant un tribunal. Il veut rentrer à la maison. Je lui ai conseillé de laisser passer quelques jours. Peut-être qu'il changera d'avis. Je ne voulais pas lui dire la vérité, à savoir que son père ne se sent pas prêt à le voir.
Ralph n'a pas été suspendu. Il s'agit uniquement d'un congé administratif, sans retenue de salaire. C'est la règle après ce genre d'incident.
C'est une autre façon de dire la même chose.
Un second indice venait d'apparaître sur l'écran. Une redoutable infirmière.
Il dit que ça peut durer jusqu'à 6 mois, à condition qu'il accepte de subir une évaluation psychiatrique.
Pourquoi refuserait-il ?
Il envisage de tirer sa révérence.
Samuels porta sa main à son crâne, par automatisme. Mais l'épi était sage ce soir, pour l'instant du moins. Il la laissa retomber.
« Dans ce cas, » dit-il, « peut-être qu'on pourrait s'associer, lui et moi. Cette ville aurait besoin d'une bonne station de lavage auto. »
Cette fois, Jenny le regarda.
« De quoi parlez-vous ? »
« J'ai décidé de ne pas me représenter aux élections. »
Jenny le gratifia d'un sourire si discret que sa propre mère ne l'aurait peut-être pas identifié comme telle.
Vous préférez démissionner avant que l'opinion publique vous foute dehors?
Vous pouvez dire ça, si vous voulez.
Oui. Allez voir Ralph dans le jardin, monsieur le procureur pour le moment, et proposez-lui de s'associer avec vous si ça vous chante. Mais préparez-vous à prendre vos jambes à votre cou.
2. Ralph était assis dans une chaise longue. Une bière à la main, une glacière à côté de lui. Il tourna la tête en entendant la porte de la cuisine s'ouvrir, vit Samuels et reporta son attention sur un micocoulier au-delà du grillage.
« Il y a une citelle là-bas, » dit-il en tendant le doigt. « Ça fait une éternité que j'en avais pas vu. »
Comme il n'y avait pas de deuxième chaise longue, Samuels posa ses fesses sur le banc de la grande table de jardin où il s'était assis plusieurs fois, dans des circonstances plus joyeuses. Il scruta l'arbre.
Je ne la vois pas.
Là,
dit Ralph, au moment où un petit oiseau prenait son envol.
À mon avis, c'était un simple moineau. Vous devriez aller chez l'ophtalmo.
Ralph plongea la main dans la glacière et tendit une Shiner à Samuels.
Jenny dit que vous envisagez de prendre votre retraite?
Ralph haussa les sourcils.
Si c'est l'évaluation psychiatrique qui vous inquiète,
reprit Samuels.
Vous réussirez le test haut la main. Vous avez fait votre devoir.
Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est même pas à cause du caméraman. Vous êtes au courant? Quand la balle, la première que j'ai tirée, a atteint sa caméra, elle a volé en éclats. Et il en a reçu un morceau dans l'œil.
Samuels l'ignorait. Il ne fit aucun commentaire, se contentant de siroter sa bière, alors qu'il détestait la Shiner.
Il va certainement le perdre, ajouta Ralph. Les médecins de l'Institut Dean McGee Aoki City essaie de le sauver, mais va sûrement le perdre. Vous croyez qu'un caméraman peut continuer à travailler avec un seul œil? Peut-être. Peut-être pas.
Ralph, quelqu'un vous a bousculé au moment où vous tiriez. Et dites-vous que si cet homme n'avait pas tenu sa caméra devant son visage, il serait certainement mort à l'heure où on parle. Il faut voir le côté positif.
Positif, mon cul. J'ai appelé sa femme pour m'excuser. Et elle m'a répondu, on va attaquer la police de Flint City en justice pour réclamer 10 millions de dollars, et quand on aura gagné le procès, on s'occupera de vous. Et elle a raccroché.
Ça ne marchera pas. Peterson était armé et vous avez agi dans l'exercice de vos fonctions.
Ce caméraman aussi.
Ce n'est pas la même chose. Il avait le choix.
Non, Bill. Ralph se retourna dans sa chaise longue. Il avait un boulot à faire. Nuance. Et c'était bien une citelle, nom de Dieu.
Ralph, il faut m'écouter maintenant. Maitland a tué Frank Peterson. Le frère de Peterson a tué Maitland. La plupart des gens considèrent qu'il s'est fait justice lui-même, à la manière des pionniers. Et pourquoi pas? Après tout, c'était le Far West ici, il n'y a pas si longtemps.
Terry a affirmé que ce n'était pas lui le meurtrier, à l'article de la mort.
Samuel se leva et se mit à faire les 100 pas.
Que pouvait-il dire d'autre, alors que sa femme pleurait toutes les larmes de son corps, agenouillée à côté de lui? Allait-il déclarer « Ah oui, c'est bien moi qui ai sodomisé ce gamin et qui l'ai mordu, pas forcément dans cet ordre, et ensuite j'ai éjaculé sur lui pour faire bonne mesure ?»
Des tonnes de preuves étayent ce qu'il a dit avant de mourir.
Samuel se revint vers Ralph et le toisa.
C'est bien son ADN qu'on a retrouvé dans l'échantillon de sperme, nom de Dieu. Et l'ADN l'emporte sur tout le reste. C'est bien Terry qui a tué ce gamin. Je sais pas comment il a trafiqué son alibi, mais c'est lui.
Vous êtes venu pour me convaincre ou pour vous convaincre vous-même?
Je n'ai pas besoin d'être convaincu. En fait, je suis venu vous annoncer que l'on sait maintenant qui a volé cette camionnette Econoline en premier.
Ça change quelque chose à ce stade? Demanda Ralph.
Néanmoins, Samuel savait détecter une lueur d'intérêt dans les yeux de l'inspecteur.
Si votre question est « Cet élément éclaire-t-il l'affaire d'un jour nouveau ?», la réponse est non. Toutefois, c'est une histoire fascinante. Vous voulez l'entendre ou pas?
D'accord.
La camionnette a d'abord été volée par un gamin de 12 ans.
12 ans? Vous vous foutez de moi?
Non. Et il a taillé la route pendant plusieurs mois. Il est allé jusqu'à El Paso avant qu'un flic l'arrête sur le parking d'un supermarché, en train de dormir dans une Buick volée, elle aussi. Au total, il a volé 4 véhicules, en commençant par la camionnette. Il est allé jusque dans l'Ohio avec. Puis il l'a abandonné pour changer de véhicule, en laissant la clé sur le contact, comme on l'avait supposé.
Samuel savait dire cela avec une pointe de fierté, et Ralph songea qu'il en avait le droit. Une de leurs théories se révélait exacte, au moins.
Tant mieux. Mais on ne sait toujours pas comment cette camionnette a atterri ici, hein? Demanda-t-il.
Quelque chose de tracassé. Un petit détail.
Non, confirma Samuels. Nous n'avons résolu qu'une partie de l'équation. Je pensais que ça vous intéresserait de le savoir.
Voilà. Je sais.
Samuels but une gorgée de bière et reposa la canette sur la table du jardin.
Je ne me présenterai pas aux élections.
Ah bon?
Non. Ce connard paresseux de Richmond n'a qu'à prendre ma place. On verra bien si les gens l'aimeront toujours autant quand il refusera d'intenter des actions en justice dans 80% des affaires qui atterrissent sur son bureau. Je l'ai annoncé à votre femme, et on ne peut pas dire qu'elle ait fait preuve de beaucoup de compassion.
Si vous pensez que je lui ai raconté que tout était votre faute, Bill, vous vous trompez. Je n'ai pas dit un mot contre vous. Et pourquoi l'aurais-je fait?
C'est moi qui ai eu l'idée d'arrêter Maitland au cours de ce putain de match.
Et quand les agents des affaires internes m'interrogeront vendredi, je serai parfaitement clair sur ce point.
Je n'en attendais pas moins de vous.
Toutefois, comme je l'ai peut-être déjà dit, vous n'avez pas vraiment essayé de m'en dissuader.
On le croyait coupable, et je continue à le croire coupable, quoi qu'il ait pu dire à l'article de la mort. On n'a pas vérifié son alibi car il connaissait tout le monde dans cette foutue ville et on craignait de le faire fuir.
Et on n'en voyait pas l'intérêt. Bon Dieu, on peut dire qu'on s'est fourré le doigt dans l'œil.
Ok, Ralph, c'est bon. J'ai saisi le message. On pensait également qu'il était extrêmement dangereux, surtout pour les jeunes garçons. Et ce fameux samedi soir, il en était entouré.
On aurait dû le faire entrer au tribunal par derrière. J'aurais dû insister.
Samuel secoua la tête avec véhémence, ce qui eut pour effet de réveiller son épi, qui se dressa au garde-à-vous.
Ne vous tenez pas pour responsable. Le transfert des détenus entre la prison et le tribunal est du ressort du shérif.
Doline m'aura écouté.
Ralph laissa tomber sa canette vide dans la glacière et regarda Samuels.
Et il vous aura écouté, vous le savez.
Ce qui est fait, comme on dit. Le passé, c'est le passé. Techniquement parlant, l'affaire demeure en suspens, mais...
L'appellation officielle est « affaire en cours, mais inactive ». Et elle le restera, même si Mercy Maitland intente un procès à la police en affirmant que son mari a été assassiné à la suite d'une négligence. Et elle pourrait gagner.
Elle envisage de le faire?
Je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le courage de lui parler.
Oui, pourrez-vous donner une idée de son état d'esprit?
Peut-être que je l'appellerai, histoire de ménager la chèvre et le chou.
Vous êtes un gisement de proverbes ce soir, monsieur le procureur.
Samuel reprit sa canette, puis la reposa en esquissant une grimace. Gianni la regardait par la fenêtre de la cuisine, l'air impénétrable.
Ma mère était très branchée, destin.
Moi aussi, dit Ralph, d'un ton maussade. Mais après ce qui est arrivé à Terry, j'ai des doutes. Le fils Peterson a surgi de nulle part. Nulle part.
Samuels ne put retenir un sourire.
Je ne parlais pas de prédestination, mais d'un petit magazine baptisé Destin, rempli d'histoires, de fantômes, d'agroglyphes, d'ovnis et de Dieu sait quoi encore. Ma mère me les lisait quand j'étais gamin. Et il y en avait une en particulier qui me fascinait. Des empreintes de pas dans le sable. Et c'était l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui part en lune de miel dans le désert de Mojave, en camping. Une nuit, ils plantent leur tente dans un bosquet de peupliers et quand la jeune épouse se réveille le lendemain matin, son mari a disparu. Elle sort du bosquet et avance jusqu'à la limite du sable. Là, elle voit ses empreintes de pas. Alors, elle l'appelle, mais pas de réponse.
Ralph parodia un film d'horreur.
Ouh.
Elle suit les empreintes au-delà de la première dune, puis de la deuxième. Les traces sont de plus en plus fraîches. Elle les suit au-delà de la troisième dune.
Et de la quatrième, de la cinquième,
enchaîna Ralph en singeant l'effroi.
Aujourd'hui encore, elle continue à marcher.
Désolé d'interrompre votre histoire de feu de camp, Bill. Mais je crois que je vais aller manger une part de tarte, prendre une douche et me coucher.
Non, écoutez-moi. La femme n'est pas allée au-delà de la troisième dune. Les traces de pas descendaient de l'autre côté, mais s'arrêtaient au milieu de la pente. Comme ça, subitement, au milieu de plusieurs hectares de sable. Elle n'a jamais revu son mari.
Et vous croyez à cette histoire?
Non, je suis sûr que c'est bidon, mais il ne s'agit pas d'y croire ou pas. C'est une métaphore.
Samuel s'essaya encore une fois d'aplatir son épi, qui refusa d'obéir.
On a suivi les traces de Terry parce que c'est notre métier. Notre devoir, si vous préférez. On les a suivies jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, le lundi matin. Est-ce un mystère?
Oui.
Restera-t-il toujours des questions sans réponse? À moins qu'un élément nouveau et sensationnel nous tombe tout rôti dans le bec?
Oui.
Ça arrive parfois. Voilà pourquoi certaines personnes continuent à se demander ce qui est arrivé à Jimmy Hoffa. Pourquoi certaines personnes essaient encore de comprendre ce qu'il est advenu de l'équipage de la Marie Céleste. Pourquoi certaines personnes se disputent encore pour savoir si Oswald a agi seul ou pas quand il a battu JFK. Parfois, les traces s'arrêtent subitement. Et on doit vivre avec ça.
À une grosse différence près, dit Ralph. Dans votre histoire... Cette femme pouvait continuer à croire que son mari était toujours vivant quelque part. Elle pouvait y croire jusqu'à ce qu'elle soit une vieille femme et non plus une jeune mariée. Mais quand Marcy est arrivé devant les dernières traces de son mari, il était là, sur le trottoir, mort. Elle va l'enterrer demain, d'après la rubrique nécrologique du journal d'aujourd'hui. Elle sera seule avec ses filles, j'imagine. Mais 50 vautours de la presse, agglutinés derrière les grilles, hurleront des questions et les mitrailleront.
Samuels soupira.
Ça suffit. Je rentre chez moi. Je voulais vous parler de ce gamin voleur de voiture. Au fait, il s'appelle Merlin Cassidy. et je vois bien que vous n'êtes pas disposé à en écouter davantage. Non, attendez. Restez assis une minute. À mon tour de vous raconter une anecdote. Elle ne sort pas de votre magazine d'histoire paranormale. C'est du vécu. Tout est vrai.
Samuel se rassit sur le banc.
Quand j'étais gamin, dit Ralph, vers 10 ou 11 ans, l'âge de Frank Peterson environ, ma mère apportait parfois des melons du marché quand c'était la saison. J'adorais ça en ce temps-là. Un jour, elle en rapporte 3 ou 4 dans un filet à commission et je lui demande si je peux en avoir une tranche. « Bien sûr, me répond-elle, mais pense bien à racler les pépins au-dessus de l'évier. » Elle n'avait pas besoin de me le rappeler. J'avais déjà ouvert des tonnes de melons. Vous me suivez jusque-là? Je parie que vous vous êtes coupé. Non. Mais ma mère l'a cru, car j'ai poussé un cri qui a dû s'entendre jusque chez les voisins. Elle a accouru, et je lui ai montré le melon coupé en deux. Il grouillait d'asticots et de mouches. Ma mère s'est jetée sur la bombe de Red pour asperger les larves qui s'agitaient sur le plan de travail. Puis elle a enveloppé les 2 morceaux de melon dans un torchon et elle les a jetés dans la poubelle derrière la maison. Depuis ce jour, je ne peux plus regarder un melon et encore moins en manger. Voilà ma métaphore pour Terry, Bill. Le melon avait l'air bon. Il n'était pas spongieux. La peau était intacte. Ses larves n'avaient pas pu entrer à l'intérieur et pourtant, si. Allez au diable avec votre melon et avec votre foutue métaphore. Je rentre chez moi. Réfléchissez avant de quitter la police, ok? Votre femme m'a dit que je démissionnais avant que l'opinion publique me foute dehors. Et elle a sans doute raison. Mais vous, vous n'êtes pas confronté aux électeurs. Uniquement à 3 flics retraités qui font office d'enquêteurs des affaires internes et à un psy qui a besoin du fric de la municipalité pour maintenir en vie son cabinet au stade terminal. Et il n'y a pas que ça. Si vous démissionnez, les gens seront encore plus convaincus qu'on a merdé.
Ralph le dévisagea, puis s'esclaffa. Une succession de grands éclats de rire venant du ventre.
Mais on a merdé. Vous ne l'avez pas encore compris, Bill. On a merdé. Dans les grandes largeurs. On a acheté un melon qui avait l'air bon. Mais quand on l'a ouvert devant toute la ville, il était plein d'asticots. Ils n'avaient pas pu y entrer, et pourtant ils étaient là.
Samuel se marcha vers la porte vitrée de la cuisine, d'un pas traînant. Il l'ouvrit et se retourna vivement, faisant tressauter son épi. Il montra le mico-coulier.
« C'était un moineau, nom de Dieu !»